Impossible de ne pas aimer la musique quand on écoute cet air de Bach par des voix d'enfants, n'est-ce pas, Monique?
Oh, c'est tellement beau, Hélène. Merci de ce choix. C'est vraiment... Ça nous va droit au cœur.
Oui, hein? On était au paradis, je crois.
Oui, presque.
Alors, Monique, imaginez-vous donc, en tout cas, c'est vous là, qui avez choisi cet article-là qui va en provoquer certains, mais paraît-il qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la musique.
Exactement. Alors, le titre, c'est « Certaines personnes n'aiment pas la musique. La raison se trouve dans leur cerveau ». Et c'est un texte rédigé par la professeure en neuropsychologie Catherine Loveday de l'Université de Westminster. Et ça a été publié dans La Conversation le 29 août dernier. Alors, lorsque la professeure Catherine Loveday demande à une salle d'étudiants comment ils se sentiraient s'ils ne pouvaient plus jamais écouter de la musique, ben la plupart sont consternés, hein? On le serait à moins. Beaucoup ont écouté leur musique d'ailleurs jusqu'à l'instant où le cours a commencé. Mais invariablement, un ou deux admettent timidement que leur vie ne changerait pas du tout si la musique n'existait pas.
Ah,
ouais.
C'est
Et
grave.
Hélène, les psychologues appellent cela l'anédonie musicale. Alors, je vous appelle anédonie, A-N-H-E, accent aigu, D-O-N-I-E. Alors, ça, c'est l'absence de plaisir à écouter de la musique. Et il y a un nouvel article publié par des neuroscientifiques espagnols et canadiens suggère qu'elle serait causée par un problème de communication entre différentes parties du cerveau. Pour beaucoup d'entre nous, l'apathie envers la musique semble incompréhensible. Je pense qu'on l'a exprimé, vous
oui.
et moi, depuis que j'ai annoncé cette chronique. Alors pourtant, il y a 5 à 10 % de la population, pour 10 à 5 % de la population, pardon, c'est la norme. Madame Loveday le constate souvent dans ses propres recherches et pratiques auprès de personnes souffrant de perte de mémoire à qui elle demande de choisir leur chanson préférée afin d'accéder à des souvenirs importants. Elle a toujours été fascinée par le fait que certaines personnes la regardent d'un air perplexe et lui disent « la musique ne m'a jamais intéressée ». Cela contraste fortement avec la majorité des gens qui adorent parler de leur premier disque ou de la chanson qui a été jouée à leur mariage ou à tout autre événement. Des études récentes montrent de grandes différences dans l'intensité des réactions émotionnelles des gens à la musique. Environ 25 % de la population est hyper hédonique, c'est-à-dire qu'elle éprouve un besoin presque obsessionnel d'écouter intensément et fréquemment de la musique. La recherche dans ce domaine utilise généralement le questionnaire de récompense musicale de Barcelone, le BMRQ, qui interroge les personnes sur l'importance de la musique dans leur vie quotidienne. Par exemple, une question posée à quelle fréquence elles écoutent des disques, si elles fredonnent ou s'il y a des chansons qui leur donnent des frissons. J'ai été vérifier, Hélène, le questionnaire de récompense musicale de Barcelone. Je ne l'ai trouvé qu'en anglais.
Ah.
Alors, j'ai pas accédé, en fait, au site pour cette raison. Les personnes obtenant un score faible sont classées comme souffrant d'anédonie musicale et de nombreux chercheurs vérifient ce diagnostic en laboratoire en mesurant leur rythme cardiaque, leur transpiration et leur respiration pendant qu'ils écoutent de la musique. Pour la plupart d'entre nous, ben, ces marqueurs physiologiques changent radicalement pendant les chansons émouvantes. Mais chez les personnes souffrant d'anédonie musicale, il n'y a souvent aucun effet physiologique. Une théorie est que le fait de moins apprécier la musique pourrait refléter une anédonie plus générale, c'est-à-dire une absence de plaisir pour quoi que ce soit. Souvent, cela est lié à des perturbations des circuits de la récompense du cerveau dans des zones telles que le noyau acombien, le cortex orbitofrontal et l'insula. Il s'agit d'une caractéristique courante de la dépression qui, comme d'autres troubles de l'humeur, peut être corrélée avec une absence de réponse à la musique. Or, cela n'explique pas l'anédonie musicale spécifique où les personnes apprécient pleinement d'autres sources de plaisir telles que la nourriture, les relations sociales et les films, mais restent indifférentes à la musique. Une autre possibilité, c'est que les personnes s'intéressent peu à la musique, ne la comprennent pas du tout. Peut-être en raison de difficultés à percevoir les mélodies et les harmonies. Pour tester cette hypothèse, on peut nous intéresser aux personnes atteintes d'amusia. C'est un trouble de la perception musicale qui affecte la capacité à reconnaître des mélodies familières ou à détecter des fausses notes. Cependant, certaines personnes atteintes de ce trouble ont un amour extrême et obsessionnel pour la musique. Quoi qu'il en soit, d'autres recherches montrent que les personnes souffrant d'anhédonie musicale ont souvent une perception musicale normale, sans difficulté à reconnaître les chansons ou à distinguer les accords, qu'ils soient majeurs ou mineurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, le nouvel article propose une analyse approfondie des recherches menées jusqu'ici. Les auteurs expliquent que chez les personnes souffrant d'anhédonie musicale, les réseaux cérébraux de la perception musicale et de la récompense sont intacts, mais la communication entre eux est fortement perturbée. Autrement dit, il existe peu ou pas d'échanges entre les régions auditives du cerveau et le centre de la récompense.
Alors Monique, c'est pas un choix d'aimer ou pas aimer la musique, là. Ça relève d'un trouble.
Ben oui, c'est ça. Il y a une rupture, en fait. Il devrait y avoir connexion entre les régions auditives du cerveau et le centre de la récompense, et ça ne se fait pas. Alors, les personnes qui ont des réactions typiques à la musique présentent une activité importante dans cette voie qui est plus élevée que la musique agréable pour les sons neutres. Une étude réalisée en 2018 a montré qu'il est possible d'augmenter le plaisir procuré par la musique en stimulant artificiellement ces voies de communication, donc entre les régions auditives du cerveau et le centre de la récompense, en stimulant donc artificiellement ces voies de communication à l'aide de stimulation magnétique. Cette nouvelle analyse pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre certains troubles cliniques où le plaisir quotidien paraît diminuer ou au contraire exacerber, comme les troubles alimentaires, l'hypersexualité ou la dépendance au jeu. Donc, c'est multifacétaire, si on peut dire, c'est pas juste la musique. Ces résultats remettent également en question l'idée répandue selon laquelle tout le monde aime la musique. La plupart des gens, oui, l'apprécient, mais pas tous. Et cette variation s'explique par des différences dans le câblage du cerveau. Parfois, cela fait suite à une lésion cérébrale, mais le plus souvent, les personnes naissent ainsi. Il y a une étude réalisée en mars 2025 qui a trouvé des preuves aussi d'un lien génétique. La musique est partout. Dans les magasins, les salles de sport, les restaurants, les établissements de santé. Et elle peut avoir un pouvoir incroyable, on le sait, mais peut-être devrions-nous résister à la tentation de la considérer comme une panacée et accepter que, pour certains, le silence est lui aussi sa valeur.
Ah, le silence, on aime ça aussi.
Ben oui.
Il y en a de moins en moins.
Exactement.
Alors, allons-y avec une chanson, puis on se retrouve avec le même thème. La musique ne nous rendrait pas plus empathiques, paraît-il. Alors, Monique, j'arrête pas de dire alors ce matin, Mathieu. C'est mon tic de ce jeudi 4 septembre. Je vais essayer.
On vous le pardonne, Hélène.
OK, merci beaucoup. Monique, la musique ne nous rendrait pas plus empathiques. Merci d'être empathique envers moi.
C'est peut-être la musique, on verra. Mais parmi les lieux communs les plus répandus sur les bienfaits de la musique, Hélène, figure celui selon lequel elle nous rendrait plus empathiques. Qu'il s'agisse d'enfants jouant dans un orchestre ou d'adultes chantant dans une chorale, la pratique musicale est souvent perçue comme un vecteur naturel de développement social et émotionnel. Mais qu'est-ce que nous disent les données? Ben, c'est à cette question qu'a voulu répondre une équipe de recherche du département de psychologie de l'Université de Montréal. En scrutant la littérature existante, l'équipe a relevé des résultats contradictoires. Alors, certaines études trouvent une corrélation positive entre musique et empathie, d'autres non, et d'autres même une corrélation inverse. Les chercheurs ont donc recruté de 169 169 pardon, musiciens et non-musiciens adultes pour étudier s'il y a réellement un lien entre la pratique musicale en général, l'empathie et la prosocialité. Prosocialité qui est le désir d'aider quelqu'un. Hein. Les chercheurs ont voulu mesurer l'empathie, c'est-à-dire l'habileté qui permet de comprendre et d'être sensible aux états émotionnels des autres. L'étude n'a révélé aucune différence significative entre musiciens et non-musiciens quant à la majorité des mesures d'empathie et de prosocialité. Le fait d'avoir une activité également, et le fait d'avoir une activité musicale régulière ne semble pas influencer directement la propension à coopérer, à partager ou à sacrifier ses propres intérêts pour ceux des autres. Ces résultats vont donc à l'encontre de plusieurs études menées auprès d'étudiants, d'enfants, pardon, qui avaient montré les effets positifs de la musique sur les habiletés sociales. Alors, comment peut-on expliquer cette discordance? Bon, on aurait deux hypothèses. La première est liée à l'âge au début de l'activité musicale. Les analyses exploratoires indiquent que les personnes ayant commencé la musique tôt dans l'enfance obtiennent des résultats légèrement supérieurs quant à certaines mesures d'empathie, indépendamment de leur pratique actuelle. Ça donne à penser que les expériences musicales précoces pourraient jouer un rôle structurant, notamment sur le plan du développement socio-émotionnel. La deuxième hypothèse, c'est le contexte de réalisation. Beaucoup d'études portent sur des activités musicales de groupe où la coordination, l'écoute et la régulation émotionnelle sont sollicitées. Les adultes recrutés faisaient de la musique ou chantaient probablement dans un ensemble de contextes différents. Ça nous permet de dire que la musique en général, donc dans n'importe quel contexte, ne permet pas d'améliorer l'empathie. Mais c'est possible que celle faite en groupe, plus spécifiquement, est un effet. En d'autres termes, ce n'est peut-être pas la musique en tant que telle qui favoriserait l'empathie ou la prosocialité, mais les contextes sociaux dans lesquels elle est vécue. Donc, c'est l'effet de groupe.
Intéressant. C'est un fonds musical que je qualifierais de supportable, mais un fonds musical est-il insupportable, Monique? Je serais portée à dire oui.
Oui, ben en fait, il faut préciser qu'on parle ici de, l'article dit, de cette soupe musicale servie dans les magasins, les bars, les hôtels, soigneusement sélectionnée pour nous faire sentir bien et éventuellement nous inciter à prolonger le moment ou à consommer. Sauf que ces boucles sonores qui tournent toute la journée sont un calvaire pour les employés. C'est ce que révèle en fait la première étude consacrée à leur effet. Les chercheurs ont suivi 68 personnes du secteur des services pendant 10 jours à différents moments de la journée. En observant que la musique finit par accaparer leurs ressources mentales, réduire leurs pensées et leurs émotions positives jusqu'à produire, selon les auteurs, je les cite, un appauvrissement cognitif qui impacte le comportement de façon défavorable. Un effet d'autant plus fort que le fond musical est en décalage avec ce que les employés auraient eu envie d'écouter. et avec, au final, Hélène, une moindre efficacité dans leur travail.
Ah oui. Mais vous parlez du personnel, mais il y a aussi les clients, là, je pense, quand on fait notre marché à l'épicerie, dans le temps des fêtes, là, qu'on nous assomme avec des chansons de Noël, pas nécessairement les meilleures, là, avec un son, un volume vraiment trop, trop fort. Ou au restaurant, quand on nous impose de la musique.
Exactement. Et les restaurants qui sont malheureusement mal, je dirais, préparés, mal insonorisés peut-être, ce qui fait que la musique est forte, les gens parlent plus fort, on s'entend plus, fait qu'on veut juste sortir du restaurant.
C'est une stratégie aussi, paraît-il, pour nous faire boire un peu plus d'alcool, mais on peut pas boire plus d'alcool quand on prend le volant. Et les gens boivent de moins en moins de toute façon. Alors, je ne sais pas si à un moment donné, ils vont prendre conscience là, que c'est plus désagréable qu'agréable, mais ça dépend, il y en a qui aiment ça. Mais moi personnellement, j'aime bien entendre mon interlocuteur ou mon interlocutrice.
Et pas nécessairement votre voisin de table.
Non.
Qui parle plus fort parce que la musique est plus forte.
À moins que le voisin soit plus intéressant que celui ou celle avec
qui
je...
Hélène!
Alors, Monique, dès quel âge les enfants sont sceptiques?
Ben, dès 4 ans, Hélène.
Ah oui?
Oui, ils exigent des preuves pour croire ce que l'on raconte et ne tirent pas des conclusions hâtives. Ainsi, 122 enfants entre 4 et 7 ans, auxquels on a présenté 20 extraterrestres sur une tablette en leur précisant qu'ils avaient tous 3 yeux, ont préféré ôter les lunettes de soleil des personnages pour le vérifier. Et ils le vérifiaient d'autant plus si, au préalable, on leur avait soumis des assertions aussi peu crédibles que les hippopotames nagent dans l'espace. Donc, attention aux enfants de 4 ans, on ne peut pas leur faire passer n'importe quoi.
Non, les sceptiques seront confondus.
Exactement.
Et on termine avec une capsule, vous terminez avec une capsule linguistique.
Oui, alors, est-ce qu'on fait preuve d'humanisme ou d'humanité? Je trouvais intéressant la subtilité, là.
Oui.
Le mot humanisme, ça désigne un mouvement intellectuel qui a pour objectif d'élever la dignité de l'esprit humain. On appelle également humanisme la formation de l'esprit humain par la culture littéraire. Et il faut rappeler que l'humanisme n'a rien à voir avec la philanthropie. L'humanité est un sentiment de bienveillance envers tous les êtres humains. Donc, lorsqu'on manifeste de la sympathie pour ses semblables, on fait preuve d'humanité et non pas d'humanisme.
Merci.
Une petite subtilité, mais on perd souvent ces subtilités dans notre quotidien, n'est-ce pas?
Oui, c'est bien ce rappel à l'ordre. Merci, Monique, pour tout ça, pour votre présence de ce matin. Puis, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve, je l'espère bien, la semaine prochaine.
Ben oui, à jeudi prochain.
À jeudi.